Docteur Ted Hildebrandt, Histoire, Littérature et Théologie de l'Ancien Testament.
Conférence 13. Symbole copyright 2020, Docteur Ted Hildebrandt. Voici le Docteur Ted Hildebrandt dans son cours d'Histoire, de Littérature et de Théologie de l'Ancien Testament, conférence numéro 13 sur le livre du Lévitique, la sainteté. Les lois de pureté et les problèmes. Assez aperçu du quiz entre minuit et 2h33. Classe, commençons ici. Nous avons beaucoup à faire aujourd'hui. Nous allons essayer de couvrir le livre du Lévitique, qui est le livre le plus fascinant de l'Ancien Testament. Nous allons essayer de le faire danser aujourd'hui pour nous. Pour le quiz de jeudi, qu'avons-nous de prévu? Jeudi c'est quad break. Donc tu as congé jeudi. Joyeux Noël! Le jeudi suivant, vous travaillez sur le livre de Josué. Josué compte environ 24 chapitres. Ce n'est ni si grave ni si grave. Il y a un article là-bas sur le concept de guerre, et cela pourrait donc vous intéresser. Il s'agit de la guerre et du fait d'aimer son prochain comme soi-même, donc il met ces deux idées ensemble. Ensuite, il y a aussi quelques versets à mémoriser. Le psaume 100 commence par « Faites un bruit joyeux au Seigneur ». C'est un autre psaume célèbre, pas aussi célèbre que le psaume 23, mais il y a quelques versets et il y a Josué 1h08 qui est un verset vraiment classique dans le livre de Josué. Donc, vous travaillerez sur Joshua. Je vais commencer à essayer de vous rattraper, les gars. Je ne vous rattraperai probablement jamais tout le semestre, mais je vais commencer à avancer plus vite. Nous allons terminer une bonne partie du livre du Lévitique aujourd'hui, probablement pas la totalité. Vous allez donc travailler sur Joshua. Nous allons retourner dans l'Exode et nous entrerons dans le Lévitique. Avant de faire cela, commençons par un mot de prière et ensuite nous y passerons. Père, nous te remercions pour cette journée. Nous vous remercions pour vos gentillesses envers nous et pour nous avoir donné votre parole. Nous prions pour nos frères et sœurs d'Égypte qui luttent aujourd'hui et qui sont persécutés. Des églises incendiées. Des chrétiens tués. Nous nous souvenons de nos frères et sœurs et nous prions pour que vous puissiez les protéger et que vous puissiez leur donner un sens et un but au milieu de tout le chaos qui règne là-bas actuellement. Aide-nous dans ce cours alors que nous parcourons le livre du Lévitique. Je prie pour que vous puissiez m'aider à l'expliquer d'une manière qui soit bonne, précise et qui reflète votre sainteté et votre bonté. Tu es un Dieu saint. C'est un grand privilège de t'appeler Père et de savoir que tu as donné ton Fils Jésus-Christ en notre nom. Et c'est en son précieux nom que nous prions. Amen. B. La loi de l'Exode sur l'avortement. Non entre 2h34 et 10h54. Finissons le livre de l'Exode. Ce que j'aimerais faire, c'est en quelque sorte introduire cette loi dans Exodus. C'est ce qu'on appelle une jurisprudence. Qu'est-ce qu'une jurisprudence? Réalisez-vous qu'il existe des lois comme, tu ne tueras pas. Tu ne voleras. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Ce sont des lois apodictiques de principe général. Il existe un tout autre type de droit appelé, jurisprudence. Une jurisprudence est la suivante, si Johnny boit et Johnny conduit, alors Johnny sera mis en prison. C'est un type de loi si alors qui vous donne des cas spécifiques. C'est pourquoi ils appellent cela, la jurisprudence. Si la personne fait cela, cela se produira. C'est si alors avec des cas spécifiques prescrivant ce qui devrait arriver. Donc, ce que nous avons dans Exode chapitre 21, ici, est une jurisprudence spécifique. Permettez-moi simplement de lire le passage d'Exode 21.22. Il est dit, si les hommes qui se battent. Vous avez donc deux types qui se battent. Si des hommes qui se battent frappent une femme enceinte. Donc, il y a deux hommes qui se battent et que se passe-t-il? La femme essaie de rompre ou peu importe, elle se lance dans la bagarre. Il y a deux gars qui se battent et puis si la femme enceinte est frappée. Et elle accouche prématurément, mais il n'y a pas de blessure grave, le contrevenant doit être condamné à une amende. L'homme qui frappe la femme enceinte doit être condamné à une amende, tout ce que le mari de la femme exige et que le tribunal autorise. mais s'il y a une blessure grave, vous prendrez vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie et meurtrissure pour meurtrissure. On appellerait ça comment? La lexictalionie. Vous souvenez-vous de l'œil pour œil, dent pour dent? C'est en fait répertorié ici. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, brûlure pour brûlure, et c'est ce qu'on appelle la lex talioni, la loi du talion. Le droit du talion est donné dans cette jurisprudence. Maintenant, que se passe-t-il réellement ici? Vous avez deux gars qui se battent, cette femme intervient, elle essaie de mettre fin au combat. Le gars la frappe. Maintenant, il est dit qu'il y a deux situations qui en découlent. La première est s'il n'y a pas de blessure. Pas de blessure à qui? Le gars qui l'a frappé est condamné à une amende. La femme n'a subi aucune blessure, mais apparemment, la femme fait une fausse couche ou a un enfant et l'enfant, on suppose ici, l'enfant meurt. Alors, celui qui l'a frappé doit payer une amende pour la perte de l'enfant. Alors ce qui se passe, c'est que vous avez ici une situation où, fondamentalement, il y a cet accouchement prématuré avec le bébé souffrant d'une blessure, très probablement la mort parce qu'à l'époque, une naissance prématurée, il ne faisait pas les prémices comme nous le faisons dans les hôpitaux aujourd'hui qui sauvent la vie de la mère et du bébé. À l'époque, le bébé mourait souvent. Mais remarquez quelle est la pénalité. La pénalité est qu'une taxe doit être payée. Cela soulève donc la question du fœtus. Le fœtus est-il une personne avant sa naissance? Et le fœtus maintenant, il y a eu une fausse couche à cause du coup que la femme a reçu. Notez que des frais sont facturés ici et sont organisés par le mari. Donc apparemment c'est négociable. Ces frais sont négociables et peuvent dépendre du mois où elle se trouvait, si c'était tôt ou plus tard et des choses comme ça. Mais si la femme est frappée et que nous disons, si elle a subi des dégâts, eh bien, revenons en arrière. Si la femme est frappée, c'est œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent pour la femme, si elle est endommagée. Maintenant, pourquoi y aurait-il moins pour le fœtus qui meurt? Pourquoi y aurait-il moins de pénalités? À propos, dans cette culture également, si un esclave était blessé, y avait-il des frais payés pour un esclave blessé plutôt que œil pour œil, dent pour dent? Alors, existe-t-il une certaine hiérarchie dans la manière dont une amende est appliquée? Or, ce passage a-t-il quelque chose à nous dire sur la question de l'avortement? Les gens ont utilisé ce passage pour avorter. L'avortement est-il vraiment la question ici? Ce passage aborde-t-il la question de l'avortement? Non, ce n'est pas. Deux mecs se battent, une femme se met au milieu, et paf! Ils l'ont frappée et elle fait une fausse couche. Maintenant, laissez-moi juste aborder un autre aspect de cela. L'intention est-elle importante en termes de punition? Je conduis sur Grapevine Road. Il y a un enfant qui fait du vélo. Le gamin, tout d'un coup, à l'improviste, fait tourner son vélo et fait un écart juste devant moi et j'ai heurté le gamin, je le tue, le gamin est sous ma voiture. Je viens de tuer l'enfant. Question, est-ce que je vais en prison pour le reste de ma vie pour le meurtre de cet enfant? Est-ce que je le regretterai probablement pour le reste de ma vie? Oui. Mais est-ce que je vais en prison pour ça? Au fait, dans cette situation, ai-je tué l'enfant? J'ai tué l'enfant. Question, est-ce que je vais en prison pour meurtre? Pourquoi n'irai-je pas en prison pour meurtre? Vous allez en prison pour homicide involontaire. Est-ce que j'irai en prison ici? Si le gamin faisait un écart juste devant moi comme ça. Une partie de ma défense serait, était-ce de ma faute ou y avait-il quelque chose que je pouvais faire? Les freins de ma voiture étaient bons et vous ne comprenez pas, je n'ai probablement même pas freiné. Le gamin a juste fait un écart et c'était fini. Question, y a-t-il eu de la malveillance et de la prévoyance? La malveillance et la prévoyance comptent-elles? Oui. Maintenant, est-il possible, supposons que mes freins soient mauvais et que mes freins ne puissent pas arrêter ma voiture? Tu appellerais ça, comment? Négligence. Il peut y avoir de la négligence et des choses de ce genre, mais dans ce cas, il n'y a pas de malveillance ni de prévoyance. Revenons maintenant à la femme qui a été frappée. Le gars essaie de se débarrasser de la femme. La femme essaie de retirer ce type de son mari ou quelque chose comme ça et il s'en va. Il lui donne un coup de coude ou quelque chose comme ça. Question, le gars essaie-t-il de blesser la femme pour la débarrasser de son dos? Oui. Donc pour elle, c'est pareil. Question, il frappe le bébé et le bébé fait des fausses couches. Y avait-il une intention contre le bébé? Il n'y avait aucune intention contre l'enfant. Donc, en d'autres termes, oui, la femme, il essayait de la frapper mais il n'essayait pas nécessairement de frapper le bébé. Donc, je pense qu'il y a une distinction entre ces deux. Une amende est donc infligée à l'enfant. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec l'avortement? Non, ce n'est pas le cas. Vous devez être très prudent lorsque vous extrayez des versets comme celui-ci et les utiliser à des fins pour lesquelles ils n'ont pas été donnés. Cela n'a pas été donné pour nous donner la position biblique sur l'avortement. Au fait, est-ce que cela a à voir avec un fœtus? Oui. Mais cela n'est pas donné dans ce but et je pense que vous devez être prudent lorsque vous extrayez des versets comme celui-ci et que vous les utilisez à des fins pour lesquelles ils ne sont pas conçus ou destinés. C'est mon point de vue. Faites attention lorsque vous extrayez des versets du contexte des Écritures et que vous les utilisez dans un contexte différent pour lequel ils n'ont pas été conçus. C'est ce qu'on appelle une jurisprudence. Si deux hommes se battent et que l'homme frappe la femme, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Si cela se produit, alors cela se produit, alors ce serait la punition pour cela. Donc, pour certains, cela implique que le fœtus est humain. Cependant, cela ne résout pas vraiment ce problème. Ce n'est pas le but de ceci. Le fœtus est-il valorisé? Oui. Mais cela ne répond pas à toute la question. Soit dit en passant, je suis très, très, très résolument pro-vie, mais ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention au contexte. Développez de bons arguments et n'utilisez pas des versets comme celui-ci, qui ne sont pas destinés à être utilisés de cette façon. C'est introduction au Lévitique entre 10h55 et 12h24. Passons maintenant au Lévitique. Lévitique, le livre le plus amusant de l'Ancien Testament. Je vais essayer de rendre cela intéressant. En fait, pour être honnête avec vous, il était une fois un cours complet sur le livre du Lévitique et nous avons passé un très bon moment. Le problème est que le livre du Lévitique est éloigné de plusieurs milliers d'années de notre culture. Le thème majeur du livre est le suivant, « Soyez saints comme moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint ». C'est le thème majeur, la sainteté. À propos, ce livre s'appelle le livre du Lévitique. Si vous enlevez le « cus » à la fin ici, de qui parle le livre du Lévitique. Il s'agit des Lévites et qui serait l'autre groupe de personnes. Lévites et prêtres. Quelle est la différence? Que sont les Lévites? Ils sont de la tribu de Lévi. Ce sont donc des Lévites, s'ils sont de la tribu de Lévi. Que sont les prêtres? D'où venaient les prêtres? Les descendants d'Aaron, oui. Aaron est donc un Lévite, mais les descendants d'Aaron sont des prêtres. Aaron a été désigné grand prêtre, ses enfants, les enfants de ses enfants deviennent également prêtres. Les descendants d'Aaron sont donc les prêtres. Les Lévites portent l'équipement du tabernacle. Les prêtres font quoi? Les prêtres exercent leur ministère à l'autel et dans le Saint des Saints et des choses semblables. Les prêtres s'occupent des sacrifices, tandis que les Lévites sont ceux qui transportent le tabernacle. Des religions extrinsèques et intrinsèques entre 12h25 et 14h03. La religion est-elle uniquement personnelle et privée, avec peu d'exigences extérieures? Dans notre culture, avons-nous privatisé la religion? Est-il presque déplacé de parler publiquement de sa religion? Ont-ils réduit au silence, en termes d'expression publique, l'articulation publique du christianisme? A-t-il presque été réduit au silence dans l'espace public? Votre religion est censée être quelque chose de personnel et privé, quelque chose que vous gardez pour vous. C'est plutôt drôle dans notre culture, n'est-ce pas? Question, est-il plus inapproprié de parler de religion en public ou de voir des actes sexuels en public? Qu'est-ce qui est le plus accepté dans notre culture? Oui, avez-vous compris l'ironie? C'est incroyable. Quelque chose qui devrait être très privé est rendu public et ce n'est pas grave. Quelque chose qui devrait être public a été passé sous silence. Alors, est-ce une chose à laquelle je veux que vous réfléchissiez à la façon dont l'expression religieuse a été réduite au silence dans notre culture? Cela a été très utile et j'ai vu cela se produire pendant 40 ans. C'est très particulier et maintenant il est presque impossible de parler de religion en public. La religion a-t-elle des choses extérieures? La religion a-t-elle son expression extérieure ou est-elle uniquement personnelle et privée? Le culte dans les études de l'Ancien Testament entre 14h04 et 23h57. En voici une autre, qu'est-ce que le culte dans l'Ancien Testament? Maintenant, quand j'utilise le mot « secte », les gens pensent souvent à ce type Jimmy Jones qui boit du Kool-Aid et à tous les gens qui sont morts, c'est une secte. Une secte, c'est un lavage de cerveau aux gens et ils entrent dans ce genre de contexte sectaire fermé. C'est ce que nous pensons du « culte ». Quand on étudie l'Ancien Testament, on ne peut pas penser comme ça. Dans les études de l'Ancien Testament, le culte est tout ce que vous faites extérieurement pour symboliser votre religion. Ainsi, par exemple, lorsque nous avons prié avant le cours, posez-vous la question, est-ce que j'ai baissé la tête et fermé les yeux pour prier? J'ai baissé la tête, est-ce que cela fait partie du culte? Oui, ça fait partie du culte, c'est quelque chose que je fais en externe. Quand quelqu'un prie, est-ce que certaines personnes enlèvent leur chapeau pour prier en signe de respect? Est-ce que quelqu'un fait ça, se signer? Est-ce un acte d'adoration externe que vous accomplissez pour symboliser la religion? Ce sont des choses extérieures. Certains d'entre vous viennent d'églises qui font beaucoup avec le culte en termes de choses extérieures comme la liturgie. Certains d'entre vous viennent-ils d'églises qui ont beaucoup de liturgie? Certains d'entre vous viennent-ils d'églises qui n'ont presque pas de liturgie? Vous entrez donc dans les différentes traditions. Le culte est tout ce que vous faites extérieurement pour symboliser votre religion. D'ailleurs, certaines personnes symboliseront elles leur religion extérieurement en portant un t-shirt. Je suis en cours de grec et le t-shirt d'un enfant dit « Jésus rule ». Est-ce une expression extérieure de sa religion? Donc vous pouvez dire tout ce que vous faites à l'extérieur, la liturgie typiquement dans les églises et le culte. Y a-t-il beaucoup d'expressions extérieures de la religion dans l'Ancien Testament? Oui. Ils ont dû réfléchir à la manière dont ils s'approchaient de Dieu de différentes manières. Ainsi, le culte a à voir avec l'importance des éléments extérieurs lorsque vous vous approchez de Dieu. Les extérieurs comptent-ils ou est-ce que seul votre cœur compte? Les éléments extérieurs sont-ils importants lorsque vous approchez quelqu'un? Maintenant, j'ai utilisé un rituel, je l'appelle, un rituel de torture, que j'ai avec ma femme. Je ne devrais probablement pas le dire comme ça, il faut comprendre mon parcours en grandissant. J'ai grandi en pratiquant l'athlétisme depuis que j'étais enfant au lycée. J'ai joué au football, au basketball et au tennis, 3 saisons, 3 sports différents. Quand je suis allé à l'université, j'ai joué 2 saisons différentes, le basketball et le tennis. Je ne fais plus de sport, c'est évident. Mais quand j'étais plus jeune, je m'entraînais tous les jours. La sueur faisait partie de ma vie. La transpiration me dérange-t-elle? La réponse est non. J'ai transpiré la moitié de ma vie. Alors maintenant, tout d'un coup, je me retrouve marié. Alors je suis en train de tondre la pelouse, puis je fais le désherbage et je fais tout ce travail à l'extérieur et j'entre et j'enfile un t-shirt. Alors je suis trempé de sueur. Ensuite, j'ai ce rituel et je m'approche de ma femme et je lui dis, « Chérie, est-ce que tu m'aimes? Combien tu m'aimes? Je veux un câlin. » Je viens et je vérifie habituellement à quel point elle m'aime. Maintenant, la question est, est-ce qu'elle m'aime ou ne m'aime pas? Quand tu es en sueur comme ça, ne m'aime pas. Mais ce que je dis, c'est que se passe-t-il? Comment se fait-il que lorsque j'approche ma femme et que je suis tout en sueur comme ça, est-ce que l'approche compte? Est-ce que cela affecte la façon dont elle pense de moi? Quand je suis tout en sueur, cela la dégoûte, et elle dit, éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Ma femme ne m'aime plus. Non, il est temps de prendre une douche, mon pote. Il est temps de vous ressaisir. Donc ce que je dis, c'est, l'approche compte. Comment cela affecte-t-il la façon dont nous nous approchons de Dieu? L'autre jour, j'étais dans mon bureau. Habituellement, lorsque j'étudie dans mon bureau, je me détends sur ma chaise, je pose mes pieds sur mon bureau et je lis. C'est comme ça que j'ai lu. Je me détends, je pose mes pieds sur mon bureau et je lis. Tout à coup, j'entends frapper à la porte. Je me retourne, c'est le troisième étage, Frost avec tous les professeurs là-haut et personne ne monte là-haut à part les professeurs, personne n'arrive à s'y retrouver et c'est comme un labyrinthe. Alors on est là-haut et tout d'un coup je me retourne et klaxonne. Voilà le président du Gordon College. J'ai les pieds sur mon bureau et je dis, sainte vache. Voilà le président. Maintenant, question, est-ce que j'ai été un peu gêné à ce sujet? C'est le président du collège. Est-ce que je veux être assis là, les pieds sur mon bureau, lorsque le président du collège passe? Je n'ai tout simplement jamais vu le président depuis 12 ans là-bas. Est-ce que j'aime ce type? C'est un vrai fonceur, alors il est dans mon bureau et tout d'un coup, c'est comme, wouah. Je n'ai pas l'habitude d'avoir le président ici. Nous avons eu une conversation. C'est vraiment un bon gars. Mais ce que je dis, c'est que le président se présente d'accord, supposons maintenant que Hélène Phillips, que je connais depuis 35 ans, soit une bonne amie. Hélène arrive et j'ai les pieds sur le bureau. Est-ce une grosse affaire? Non, elle me connaît, ce n'est pas un problème. Question, le président se présente, c'est grave. Alors question, est-ce que la stature de la personne compte sur la façon dont vous l'abordez? Abordez-vous vos amis de la même manière que vous aborderiez quelqu'un qui est votre patron ou quelqu'un de très important? Comment aborderiez-vous le président des États-Unis? Y aurait-il un sentiment de, c'est le président des États-Unis? Il y a ce sentiment de respect. Donc, ce que je dis, c'est que lorsque vous vous approchez de Dieu, y a-t-il certaines choses que Dieu dit qui lui sont répugnantes et y a-t-il certaines choses que Dieu aime? En fait, je fais référence au psaume 15. Dieu aime-t-il les commérages? Non, il ne le fait pas. Alors vous bavardez et venez à Dieu. Dieu dit, je n'aime pas ça. Dieu aime-t-il les gens qui sont justes, qui sont gentils, qui sont justes, qui sont compatissants envers les pauvres? Oui. Ces gens que Dieu aime. Ainsi, tout ce livre du Lévitique décrit ensuite comment on s'approche d'un Dieu saint. Il y a certaines choses qui lui sont abominables, qui lui sont offensantes et qui lui sont dégoûtantes. C'est comme venir vers lui avec un t-shirt trempé et lui demander un câlin. Ce n'est tout simplement pas approprié à ce stade, car vous vous engagez dans la mauvaise direction. Ainsi, le livre du Lévitique décrit cette approche. Maintenant, voici une autre façon de voir à peu près la même chose, qu'est-ce qui est laïque dans la vie? Ma voiture est à court d'essence. Je vais aller acheter de l'essence en rentrant probablement ou demain matin. Question, quand je vais acheter du gaz, est-ce que c'est laïque ou sacré? Eh bien, c'est appauvrissant, voilà ce que c'est. Mais est-ce laïque ou sacré? Quand je vais à la station-service, c'est une chose laïque. Je vais probablement aller au Sam's Club ce week-end et acheter de la nourriture parce que mon fils revient et il mange comme un cheval. Donc je dois acheter toute cette nourriture et tout ça. Quand je vais au club de Sam, est-ce laïque ou sacré? C'est encore une fois une activité laïque. Je fais du shopping, j'achète toute cette nourriture et je la ramène à la maison. Alors, qu'est-ce qui serait sacré? Est-ce qu'aller à l'église, serait-ce plus sacré? Lire ma Bible et prier, est-ce que ce serait des choses plus sacrées? Ma question est la suivante, quand ma femme fait du shopping, est-ce laïque ou sacré? Oui, en fait, il s'avère que beaucoup d'entre vous ont répondu à la question et en tant que gars, vous devez simplement vous y habituer. C'est un moment sacré. Mais quoi qu'il en soit, aller à l'église, lire la Bible, prier et faire ces choses sont considérées comme sacrées. Ce que nous dit le livre du Lévitique, et c'est un grand message du livre du Lévitique, et c'est un message important, le livre du Lévitique nous dit que la vie entière d'une personne, tout ce que nous faisons est sacré. Tout ce que nous faisons est sacré. Lorsque les Juifs s'asseyaient pour manger, devaient-ils penser à Dieu dans les types de nourriture qu'ils mangeaient? Oui. Lorsqu'une Israélienne a un enfant, doit-elle penser à Dieu en ayant cet enfant et pendant combien de jours elle est impure? En fait, même lorsque le peuple israélien est dans le désert et qu'il va faire ses besoins, doit-il penser à Dieu? Peuvent-ils se soulager n'importe où? Dieu leur a-t-il dit qu'ils devaient faire leurs besoins à l'extérieur du camp et qu'ils devaient l'enterrer? Oui. Ainsi, toute vie est sacrée. Et l'une des grandes paroles du docteur Wilson est la suivante, « Combien d'entre vous ici considèrent leurs études comme sacrées? Est-il possible d'étudier ou de faire ces études de manière totalement laïque? Le calcul peut-il être sacré? Voici ce que dit le docteur Wilson, l'étude est la forme d'adoration la plus élevée. En d'autres termes, ce qu'il dit, c'est prenez vos études, pouvez-vous offrir vos études à Dieu? Même votre étude des mathématiques ou de la biologie, de la chimie, de la physique, de quoi que ce soit, de la littérature, peut-elle être offerte à Dieu? Ainsi, toute la vie, et en particulier l'étude, est la forme d'adoration la plus élevée. Toute vie est sacrée, c'est le message du Lévitique. Tout est spécial. Tout est sacré. Il n'y a aucune distinction entre le profane et le sacré là-dedans. Lévitique dit que ce qui est profane et sacré ne font qu'un. Toute vie est sacrée et doit être vécue en présence de Dieu. Thème de la sainteté dans Lévitique 23, 58-29-21. Maintenant, que signifie la sainteté? C'est le verset clé du livre du Lévitique. Vous connaissez peut-être vaguement ce verset. Soyez saints parce que moi, l'Éternel, remarquez comment cela s'écrit. L majuscule, O majuscule R majuscule, D majuscule. Quel est le terme hébreu derrière cela? C'est Jéhovah ou Yahweh. Vous voyez comment tout est écrit en majuscule. C'est donc le terme pour Dieu. Parce que je suis l'Éternel ton Dieu, je suis l'Éternel, je suis Jéhovah ton Dieu. Dieu saurait quel est le mot hébreu. Elohim. Le nom le plus précieux de Dieu. Il dit, parce que moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Vous devez donc être saint parce que Dieu est saint. Nous devons refléter sa sainteté. Maintenant, une pierre 1.15 dans le Nouveau Testament fait écho au même commandement. En d'autres termes, il ne s'agit pas simplement d'un concept de l'Ancien Testament. Une pierre dit la même chose, soyez saints, c'est pourquoi nous, chrétiens, devons être saints, parce que l'Éternel, notre Dieu, est saint. Peter fait donc écho au même genre de choses. Maintenant, que signifie être saint? L'idée racine de la sainteté, j'aime cette phrase ici, totalement autre. Ce que signifie la sainteté ou kadosh, c'est que Dieu est totalement autre, que Dieu est totalement différent de tout ce que vous avez jamais vécu. Dieu est différent. Il est totalement différent, il est totalement différent de tout ce que vous avez connu dans votre vie. D'ailleurs, qu'est-ce que cela nous dit? Lorsque nous rencontrerons réellement Dieu, allons-nous tous être choqués? Lorsque nous rencontrerons Dieu, allons-nous tous rencontrer le totalement autre? En d'autres termes, il n'y a rien dans ce monde qui ressemble à Dieu. Il est totalement différent. Toutes nos imaginations, tous nos émerveillements, Dieu est différent de tout ce que nous pouvons imaginer. L'idée de sainteté signifie cette idée de séparation. Il est différent. Il est séparé. Il est séparé du reste de la création. Il n'y a rien comme lui. Il est séparé, il est distinct de la création. Dieu est totalement unique. Il est sui generis, il est unique en son genre. Il n'y en a qu'un comme lui dans tout l'univers. Il est spécial. Cela pourrait être une autre façon de parler de sainteté, c'est-à-dire de dire, il est spécial. La sainteté, c'est créer quelque chose de spécial, quelque chose de séparé, de distinct et d'unique. Isaïe le dit ainsi. À propos, le livre d'Isaïe contient également beaucoup de choses sur le concept de sainteté. Isaïe dit ceci, « À qui me comparerez-vous ? » Tout d'abord, de quel genre de question s'agit-il ? Attend-il une réponse à cette question ? À qui vas-tu me comparer ? Quelle est la réponse ? Demande-t-il une réponse cognitive ? Est-ce une question rhétorique ? Une question rhétorique attend-elle une réponse ? Non. Alors qu'est-ce qu'il fait ici? Une question rhétorique est une déclaration sous forme de question. Qu'est-ce qu'il essaie de dire ici? À qui vas-tu me comparer? Quelle est la déclaration qu'il fait là? Il n'y a personne comme Dieu. Personne n'est comme Dieu. Donc la déclaration ici, à qui me comparerez-vous? Il n'y a rien à qui vous pouvez le comparer, il n'y a personne à qui vous pouvez comparer Dieu. Ou qui est mon égal? Dieu n'a pas d'égal, dit le saint. Les érudits de l'Ancien Testament appellent cela l'incomparabilité de Yahweh. Il est totalement différent de tout ce que nous connaissons. Nous ne pouvons le comparer à rien, il est totalement différent. Il faut garder quelques idées là, je pensais que tu allais faire le chemin inverse. Certains d'entre vous diront, eh bien, nous pouvons savoir quelque chose sur Dieu parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, donc nous savons quelque chose sur Dieu. D'accord, nous devons mettre cela de côté et dire, oui, Dieu est amour. Savons-nous aimer? Oui, nous savons aimer. Connaissons-nous la compassion? Oui, d'accord. Connaissons-nous la justice, la droiture et ce genre de choses? Nous avons des idées sur ces choses, mais ce que cela veut dire, c'est qu'il va au-delà de cela. En d'autres termes, ces catégories ne décrivent pas Dieu qui est au-delà de toutes ces choses. Ainsi, la sainteté concerne l'au-delà de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a absolument aucun lien. En d'autres termes, lorsque vous commencez à lire une déclaration comme celle-ci, il dit que parce que nous sommes créés à son image, il y a des choses dans lesquelles nous sommes semblables à Dieu et je pense que c'est à cela que Lewis fait référence ici. Mais il y a un autre sens dans lequel, bien que nous soyons semblables à Dieu à certains égards, il existe d'autres façons où il est au-delà de tout ce que nous avons jamais connu dans la vie. Alors, la sainteté souligne cet au-delà. Ainsi, la sainteté se concentre sur cet au-delà, l'altérité. Ce serait une autre façon de le dire. C'est donc un beau verset d'Isaïe. J'ai la sainteté ne signifie pas l'éloignement 29:22-31:52. En voici une autre d'Isaïe sur cette idée de séparation. Dieu est séparé, il est distinct de tout. Mais la séparation signifie-t-elle l'éloignement? Regardez ce verset d'Ésaïe 57:15, c'est un beau verset. Il est dit, car voici ce que dit le Haut et le Très-Haut. Ainsi Dieu s'appelle-t-il, c'est ce que dit le Haut et le Très-Haut. Il est haut et il est là-bas. Voici ce que dit le Très-Haut, celui qui vit éternellement, en d'autres termes, l'éternité dans les deux sens, celui qui vit éternellement, dont le nom est, quoi? Saint. D'accord, et c'est là le point central ici, dont le nom est saint. Il est totalement différent. Il vit éternellement. Il est le Très-Haut. Il vit éternellement. Son nom est saint. Il dit, je vis dans un lieu élevé et saint. Le lieu saint est l'endroit où Dieu habite. Son nom est saint et il vit dans un lieu élevé et saint, un lieu à part, séparé, spécial, unique. Il dit, je vis dans ce lieu saint. Donc vous obtenez cette image de ce type élevé, élevé, saint, puis le verset tourne avec ce mais ici. C'est beau. Il dit, d'accord, ce Dieu haut et saint, avec qui vit-il? Mais aussi avec celui qui est contrit et humble d'esprit. Que signifie, contrit? Cela signifie, ceux qui sont brisés. Avec qui Dieu vit-il? Le Dieu élevé et élevé, le saint qui est séparé, qui vit dans ce lieu élevé et saint, il vit avec ceux qui sont brisés. Voyez-vous le tournant? Vous obtenez ce Dieu saint, plutôt que de vivre avec tous ceux qui sont élevés et saints, il vit avec des gens brisés, contrits, humbles d'esprit. Au fait, que nous dit notre culture? Devez-vous vous promouvoir? Vous devez avoir confiance en vous, vous devez vous promouvoir, vous devez vous démarquer, vous devez vous connaître. Avec qui Dieu vit-il? Avec les humbles d'esprit, avec les humbles, avec ceux qui sont cassés. C'est beau à voir. Alors la sainteté de Dieu, cela veut-il dire qu'il est éloigné? Dieu vit avec ceux qui sont brisés. Et ceci, j'aime la façon dont ce verset passe de ce Très-Haut à ceux qui sont humbles avec qui il vit. Ceci est un autre beau verset d'Isaïe. H. Réponse à la sainteté, crainte de Dieu 31, 53-37, 54. Maintenant, qu'en est-il de la sainteté? La sainteté signifie tel que nous devrions avoir peur de lui. Quand la sainteté de Dieu vient, y a-t-il cette peur qui vient? Au fait, que dit la Bible? La crainte de Dieu est le début de la sagesse. Mais combien d'entre nous ont appris que la crainte de Dieu ne signifie pas vraiment la peur de Dieu, mais que vous vénérez Dieu, que Dieu est formidable et que la crainte de Dieu ne signifie pas vraiment peur, mais signifie révérence. Je veux juste vous dire que la crainte de Dieu signifie la crainte de Dieu, la terreur de Dieu. Au fait, la notion de crainte de Dieu signifie telle également révérence et respect. Oui. Cela signifie également l'obéissance. En fait, j'ai travaillé sur ce concept. En fait, je viens de rédiger un article en novembre dernier sur la crainte de Dieu. C'est en ligne maintenant. C'est un concept intéressant. Une partie de la crainte de Dieu réside dans cette notion de peur. Combien d'entre vous ont peur? Y a-t-il certaines personnes qui provoquent la peur? Vous roulez sur la route, tout à coup, l'homme s'arrête derrière vous. Il a un ensemble de lumière sur le toit de sa voiture et vous n'avez aucune idée de la vitesse à laquelle vous alliez. Question, la peur. J'ai vécu cela le week-end dernier. Mon fils prenait l'avion de l'aéroport de Logan à destination de Denver pour rendre visite à mon autre fils et ils vont chasser l'élan. J'ai donc un pistolet 1.30-6 et il est dans un étui. Alors mon fils et moi sommes descendus, nous l'avons fait descendre. Son avion était à 9h20, donc nous étions là-bas vers 8h30 environ. Mon fils et moi nous approchons et je prends mon étui à arme et il va donc sortir et il a donc une arme pour mon autre fils à Denver qui a repéré tous les wapatis. Nous mettons l'étui à armes et ils vont enregistrer les bagages. Donc ça va passer. Apparemment, vous devez déclarer que vous volez avec une arme à feu même si vous l'enregistrez. Et pour être honnête avec vous, je ne connaissais pas les lois et mon fils ne les connaissait pas non plus. Alors ils ont pris l'étui à armes et tout, puis ma femme et moi sommes rentrés à la maison. Il était donc censé monter dans son avion. Tout d'un coup, vers 9h, nous recevons cet appel téléphonique de mon fils qui nous dit « Papa, comment fais-tu pour ouvrir ce dossier? Ils veulent que j'ouvre cette affaire. » J'ai dit « Que veux-tu dire par « ouvrir ce dossier » Il a dit qu'il l'avait mis à l'écart juste avant qu'il soit censé s'envoler. Ils l'ont écarté et l'ont forcé à ouvrir le dossier. J'ai dit, eh bien, je vous ai donné la clé. Il a dit, oui, mais la clé ne fonctionnera pas, et donc je lui ai dit qu'il y avait ce truc spécial où tu devais jouer avec la clé. Alors je l'ai fait jouer avec la clé et il a dit, d'accord, je l'ai. Alors il raccroche. Environ 10 minutes plus tard, il rappelle et dit, d'accord, maintenant, comment puis-je verrouiller cette chose? Et je dis, d'accord, eh bien, revenez en arrière et vous devez vous mettre dans le bon sens et vous devez le ressentir un peu. Et j'ai dit, ne cassez pas le matériel où vous avez terminé. Alors, tout d'un coup, il s'en va et il rappelle. Pendant ce temps, ma femme panique parce qu'elle se rend compte qu'il a été mis à l'écart pour avoir volé avec une arme sans le déclarer. C'est un crime. C'est un crime fédéral. Ma femme panique et elle sanglote et sanglote et sanglote et c'est, je ne peux pas croire que tu l'as laissé partir sans ça. Vous ne l'avez pas dit à votre fils. J'ai dit, je ne savais pas que tu étais censé le déclarer. Pendant ce temps, mon autre fils m'appelle et il se met à crier, il ne m'a jamais crié dessus de sa vie, il dit, papa, je n'arrive pas à te croire. Bref, il s'en prend à moi et il dit, tu ferais mieux de mettre ta queue là-bas. Votre fils est actuellement emmené en prison et il va avoir besoin de votre aide. Tu ferais mieux de retourner là-bas. J'ai dit, d'accord, je ferais mieux de retourner là-bas. Pendant ce temps, Zach appelle ensuite ma fille, qui est mariée à un grand avocat et mon gendre qui est avocat dit à Zach qu'il connaissait un ami qui portait une arme à feu sans déclarer son arme, également, et il a été mis en détention. Prison pendant 2 ans. Le gars qui a été mis en prison était un avocat. Alors maintenant, tout d'un coup, on saute dans la voiture, on y va et Robert appelle. Il a un bon ami avocat à Boston et il est environ 23 heures du soir et il dit, cela va vous coûter des milliers de dollars et il pourrait quand même finir en prison parce que je ne suis pas sûr de pouvoir y parvenir. Il appelle donc son ami avocat. Nous y allons. Question, y avait-il de la peur en moi? J'y vais en réalisant que c'est mon arme. Est-il possible que le professeur du Gordon College soit en prison pour avoir donné une arme non autorisée à son fils? Je me dis, j'ai prié pour cet enfant pendant 7 mois alors qu'il était en Afghanistan et qu'on lui tirait dessus tous les jours. Dieu le ramène en Amérique et quand il revient en Amérique, il le met en prison. Alors, je panique et je descends. Mais question, y avait-il de la peur? Maintenant, question, y avait-il peur de la loi? De la police. Avez-vous déjà eu peur de la police? Il y avait donc une vraie peur. Alors maintenant, vous dites que ça ne veut pas dire ça avec Dieu. La police peut me mettre en prison. Dieu a-t-il le pouvoir de faire autre chose que cela? Donc tout ce que je dis, c'est la crainte de Dieu, il faut y penser. Je sais que nous sommes dans une culture, sans peur, mais ce que je dis, c'est qu'il faut y penser. Au fait, j'ai rencontré le gars qui a interviewé mon fils. Je suis venu là-bas et j'ai dit, excusez-moi, quelqu'un ici peut-il me dire si Elliot Hildebrandt a pris l'avion pour Denver? Et le gars allait le frapper dans la machine. Il y avait un autre gars repoussé dans le coin. Il dit, oui, il est dans son avion. Alors j'ai dit, comment le connaissez-vous? J'ai dit, qu'avez-vous mémorisé toutes les personnes figurant sur la liste de l'avion ou quelque chose comme ça? Et je plaisantais juste avec ce gars parce que je voulais faire la lumière sur ça parce que c'était vraiment sérieux. Le gars dit, non, non, dit-il, je connais seulement les noms de ces gars qui essaient de porter des armes à feu. D'accord, alors j'ai juste reculé. A-t-il réussi à s'en sortir? Apparemment, il a réussi à s'en sortir et le gars lui a donné une pause. Il n'a pas dénoncé Elliot, sinon cela aurait été très grave. Alors question, en tant que parent, je sais qu'il ne faut plus jamais faire ça. Et réponse de sainteté, pureté du péché 37, 55-39, 01. Il y a donc la crainte et l'effroi de Dieu. Isaïe se tient devant Dieu et Dieu est dans les cieux et ses anges tournent autour de Dieu en disant, quoi? Saint, 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 est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Isaïe regarde un Dieu saint, voyant ses êtres de type séraphin, chérubin, se promener avec 6 ailes battant et disant, saint, 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 et que se passe-t-il? Isaïe ressent quoi? Je suis un homme de, quoi? Lèvres impures et demeuré au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Il ressent sa propre honte devant la présence d'un Dieu saint. Mais l'ange prend alors un charbon ardent et le met sur ses lèvres, le brûle et le purifie et dit, Isaïe, tu es mon homme. C'est Isaïe 6, c'est l'appel d'Isaïe où l'ange dit et Dieu vient essentiellement et dit à Isaïe, tu vas parler pour ce Dieu saint que tu as vu. Tu vas être un prophète, Isaïe, et tu vas annoncer la parole de Dieu. Une grande partie du livre d'Isaïe parle donc de sainteté parce que Isaïe a vu Dieu dans sa sainteté et a ensuite ressenti cette tension entre lui et Dieu avec sa sainteté. La sainteté passe à la sélection d'un peuple spécial 39, 02-39, 54. La sainteté de Dieu donc, il est saint, il est spécial, il est unique. Il agit pour sélectionner et sanctifier un peuple. Ainsi, la sainteté de Dieu l'amène à choisir un peuple et il dit ici dans Exode 19.6, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres, la nation entière un royaume de prêtres, et une nation sainte. » Parmi toutes les nations de la terre, Israël était spécial. Israël était unique, Israël était séparé et spécial aux yeux de Dieu. Une nation sainte, séparée de toutes les autres nations de la terre. C'est à travers cette nation que Dieu enverra son Fils. Ainsi, la sainteté de Dieu consiste à sélectionner et à sanctifier un peuple. Car rendre les choses saintes, Shabbat 39, 55-42, 03. Maintenant, pouvons-nous rendre quelque chose de sacré? Maintenant, c'est un peu bizarre, mais suivez-moi. Pouvons-nous rendre quelque chose de sacré? La réponse est oui. Rappelez-vous que les 10 commandements nous disent, souvenez-vous du jour du sabbat, pour quoi faire? pour le garder saint. En quoi le jour du sabbat était-il sacré? Le jour du sabbat est-il un jour spécial? Sommes-nous censés révérer ce jour du sabbat pour le rendre spécial? Nous ne le faisons pas, et le jour du sabbat? Travail. Vous êtes un juif de l'Ancien Testament. Vous ne travaillez pas le jour du sabbat. Au fait, c'est quand le sabbat? Pour les juifs, c'est samedi. Quand commence le sabbat? Vendredi soir quand le soleil se couche. Dans la plupart des familles juives, lorsque le soleil se couche, la famille juive dîne ensemble en famille et c'est à ce moment-là qu'elle le célèbre en famille. Ils dînent généralement le vendredi soir, lorsque le soleil se couche et que la famille dîne. Ils appellent cela le dîner de Shabbat. Quand se termine le sabbat? Ça commence vendredi soir quand le soleil se couche et ça dure jusqu'à quand? Coucher de soleil samedi soir. Que fait le peuple juif samedi soir après le coucher du soleil? Ils font la fête. Le soleil se couche, le Shabbat est terminé. Samedi soir, le soleil se couche et tout le monde est dans la rue. Si jamais vous êtes à Jérusalem, vous devez vous rendre au Kikar Zion place de Sion et vous verrez 10 000, au moins 10 000 juifs envahir partout. Tout le monde passe un bon moment et ils sont tous dans les rues, dansant, faisant la fête et se décontractant. Et c'est sur Kikar Zion, ils l'appellent, place de Sion. Bref, c'est le sabbat. Alors sabbat, tu ne travailles pas le samedi soir quand le soleil se couche, boum, puis le couvercle est fermé et ils s'amusent. Elle sanctification et sainteté 42, 04-43, 35. Maintenant, vous pouvez sanctifier quelque chose. Est-ce que quelqu'un fait du latin? La première partie, voyez-vous ce mot, sancti? Quel autre mot, sancti, connaissez-vous? Sancti est le mot latin signifiant, saint. Quel est un autre, sancti, que vous connaissez? Sanctuaire. Si j'ai dit un sanctuaire est-il un lieu saint où l'on va adorer? Au fait, permettez-moi de dire ceci, qu'en est-il d'une réserve ornithologique? Avez-vous déjà entendu parler d'une réserve ornithologique? Une réserve ornithologique est-elle un lieu privilégié pour les oiseaux? Oui, donc l'idée d'un sanctuaire étant un endroit spécial pour les oiseaux dans ce cas. L'élève pose une question, les juifs le font le samedi parce que c'est le septième jour. Il a été déplacé au dimanche essentiellement parce que les premiers chrétiens célébraient le sabbat parce qu'il était juif. Les apôtres étaient tous juifs, Jésus était juif. Ils célèbrent le sabbat, lorsque Jésus est ressuscité des morts, ils ont commencé à célébrer le septième jour, le jour spécial pour célébrer la résurrection du Christ, le dimanche, le premier jour de la semaine. Il y avait aussi probablement des tensions entre les juifs et les chrétiens et c'est pour cette raison qu'ils l'ont déplacé au dimanche à cause de la résurrection. Certaines personnes célèbrent le samedi et le dimanche. Mais en grande partie pour la résurrection, parce que la résurrection avait lieu un dimanche, l'Église a déplacé notre journée spéciale pour célébrer la résurrection de Jésus. Bonne question. Monsieur Huile Sainte 43, 36-46, 40. Ainsi, sanctifier quelque chose signifie, le mettre à part. Pour le mettre à part comme quelque chose de spécial et ce sont des choses spéciales à sanctifier. Comment rend-on quelque chose de sacré? Quel type de choses peuvent être saintes? Il y a de l'huile sainte. Maintenant, quand la Bible parle d'huile, de quel type d'huile cela parle-t-il? J'ai entendu un jour un prédicateur se lever et dire, Ezé trempera son pied dans l'huile, ce qui signifie que la tribu d'Azer a du pétrole en dessous et qu'elle devait forer du pétrole parce que la Bible dit qu'il y a du pétrole là-bas. Il est écrit, Esher trempera son pied dans l'huile. Est-ce totalement faux? Totalement, absolument, fou. Chaque fois que la Bible fait référence à l'huile, elle ne fait pas référence à une huile de voiture d'un poids de 10 à 20 ou de 10 à 30. Il s'agit d'huile d'olive. Ils font tout avec de l'huile d'olive. Ils cuisinent avec de l'huile d'olive. Ils prennent des olives, ils les pressent, ça fait de l'huile d'olive. Là-bas, ils font tout avec de l'huile d'olive. D'ailleurs, c'est vraiment bon sur du pain. Le pétrole est une substance sacrée. Que font-ils du pétrole? Ils huilent quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'huile sur la tête de quelqu'un. On appelle ça comment? Onction. Maintenant, quel est le terme hébreu pour prendre cette substance sainte qu'est l'huile et désigner quelqu'un comme saint? Comment appelle-t-on ce processus consistant à prendre de l'huile et à la mettre sur la tête de quelqu'un? Vous dites que nous appelons cela « onction », mais quel est le terme hébreu pour cela? Vous le savez tout. Je vais le dire. Cela s'appelle le Messie. Vous huilez quelqu'un. Vous êtes leur Messie. Pouvez-vous entendre le mot? C'est le mot Messie. Le terme « Messie » vient en fait de « le Messie est celui qui est huilé ». Alors, par exemple, qui était huilé dans cette culture? Les prêtres seraient-ils huilés ou unts d'huile? Les rois le feraient-ils? Est-ce que quelqu'un se souvient de Saül? Vous n'avez pas encore lu cette partie, mais Saül et David ont été unts d'huile en tant que roi d'Israël. Ainsi les rois seraient unts. Le Messie est donc celui qui est huilé. Comment le huilé apparaît-il dans le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament est en grec. Savez-vous quel est le mot grec pour « huilé » Christos. Est-ce que quelqu'un entend ça? Jésus, quoi? Jésus-Christ. Vous pensiez que c'était son nom de famille? Non, Jésus-Christ n'est pas son nom de famille. Jésus, quoi? Jésus, loin. Jésus, le Messie, l'huilé. On utilise donc de l'huile d'olive. Quand vous voulez sanctifier quelque chose, vous l'ognez d'huile. Le pétrole est donc cette substance spéciale. Énoncens sacrés 46, 41-46, 57. L'encens est une autre chose vraiment sacrée. Il brûlait de l'encens dans un contexte vraiment sacré et le parfum remplissait l'air et il y avait un encens spécial et sacré. Ce sont donc deux choses qui étaient considérées comme saintes dans divers contextes. Au lieu saint 46, 58-51, 35. Il existe désormais des lieux saints. Vous souvenez-vous? Moïse s'approche, il voit ce buisson brûlé, alors Moïse dit, « Oh! Regarde ça! Ce buisson brûle la lumière du jour là-bas. » Il s'approche et dit, « Le buisson ne brûle pas. » Alors il s'approche, il regarde et tout d'un coup quand il fait un pas en avant, que se passe-t-il? Le buisson dit quoi? Mission accomplie. Le buisson dit, enlevez vos chaussures. Vous êtes en terre sainte. Alors, cet endroit était-il sacré? Pourquoi cet endroit était-il sacré? Il y avait un buisson en feu. Pourquoi cet endroit était-il sacré? C'était un endroit spécial parce que la présence de Dieu était là. Moïse s'approche et quel est le problème avec cette approche? Vous vous approchez trop près. Enlevez vos chaussures. C'est une terre sainte. Certaines religions expriment-elles encore aujourd'hui leur sentiment de sainteté en enlevant leurs chaussures. C'est donc une terre sainte là-bas. Le Saint des Saints. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie, le Saint des Saints? Si je vous dis, le Cantique des Cantiques, à quoi est-ce que je fais référence? Cantique de Salomon, mais il s'appelle, le Cantique des Cantiques. Lorsque le peuple juif dit, le Cantique des Cantiques, au pluriel, ce qu'il veut dire, c'est que c'est le meilleur chant de tous les temps. C'est une manière de leur faire des superlatifs. Le Cantique des Cantiques signifie la meilleure chanson absolue. Alors, quand ils disent le Saint des Saints, qu'est-ce que cela signifie? C'est le lieu le plus saint. C'est comme cette chanson est la meilleure chanson de tous les temps, donc c'est le lieu le plus saint qui soit. Le Saint des Saints est le lieu le plus sacré. C'est donc une façon pour eux de dire le meilleur, le plus saint ou le plus saint de tous. Comme si nous utilisions « et » à la fin d'un mot pour en faire le « plus ». Le Seigneur est dans son saint temple. Que toute la terre se taise devant lui. Le Seigneur est dans son saint temple. Pourquoi le temple est-il saint? Parce que sa présence est là. Sa présence rend alors ce lieu saint. Laissez-moi simplement raconter ce qu'elle vient de dire. C'est tout à fait vrai. Le jour des expiations, une fois par an, ils entraient dans le Saint des Saints. Ils avaient tellement peur que quelque chose arrive au grand prêtre qu'ils l'entouraient d'une corde, puis d'une cloche. Et s'ils descendaient alors, eh bien, le problème est qu'ils descendirent parce qu'ils n'étaient pas purs. Les autres prêtres entrent et que leur arrive-t-il? Ils descendent aussi. Donc, pour contourner le problème, ils lui ont mis une corde pour que s'il tombe, ils puissent le retirer. Ce serait donc pour le tabernacle saint des saints. Maintenant, ce que nous avons jusqu'à présent ici, nous avons eu le saint des saints dans le tabernacle. Le tabernacle où il se déplace dans cette tente que nous avons regardée. Finalement, le saint des saints viendra résider dans le temple et vous l'aurez derrière le voile du temple. D'ailleurs, vous avez tout dit, la montagne sainte. Qu'est-ce que la montagne sacrée? Quel est le nom de la montagne que Dieu appelle, ma montagne sainte? De quelle montagne s'agit-il? Mont Sion. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Le mont Sion, est à Jérusalem, le mont du temple. Dieu l'appelle, ma montagne sainte. Au fait, laissez-moi en faire un autre, juste hors de ma tête. Vous souvenez-vous du mont Sinaï? Vous avez lu Exode 32. Vous vous souvenez du tremblement de la montagne? La présence de Dieu était sur la montagne. Le peuple de Dieu était-il autorisé à monter sur cette montagne ou lui a-t-on dit de rester à l'écart? La montagne entière est devenue sainte. La présence de Dieu était là. Moïse peut monter. Les gens restent en dehors de la montagne. Les animaux devaient également rester en dehors de la montagne. Ainsi, la présence de Dieu dans un lieu le rend saint. Certains d'entre vous ont-ils vécu des endroits qui sont pour vous des endroits spéciaux où vous avez rencontré Dieu? Ce sont des endroits spéciaux. Je veux appeler ces lieux saints. Ce sont des endroits spéciaux où vous avez rencontré Dieu. Différents lieux et différentes choses sont sacrées. Péjour saint jour férié 51, 36-53, 08. Ensuite, voici quelques autres choses qui sont saintes. Si vous dites cela rapidement trois fois, que obtenez-vous? Jour saint. Les jours saints deviennent quoi? Vacances. C'est ce qu'on appelle les vacances. Le « i » se transforme en « i », d'ailleurs, le « i » se transforme en « i » n'est pas un problème linguistique. Ce sont nos vacances, nos jours saints. Qu'est-ce qu'un jour saint? C'est le sabbat. Le sabbat, comme nous l'avons dit, est célébré le vendredi soir, qui commence le sabbat. Ils dînent en famille puis célèbrent le sabbat sans travail. Puis le samedi soir, le sabbat se termine. La Bible dit, « Souvenez-vous du jour du sabbat et sanctifiez-le. » Le sabbat est donc un point très important. Les Juifs auront une série de fêtes et, au fait, ces fêtes seront-elles répertoriées dans le Lévitique? Les fêtes vont-elles être importantes pour les prêtres? Les prêtres doivent-ils officier lors des fêtes? Oui, donc le livre du Lévitique va passer en revue les fêtes en détail car les prêtres et les Lévites officient lors de ces fêtes. Ce sera le chapitre 23 de Lévitique. Ce sont donc des jours saints. Il y a des moments particuliers. Y a-t-il des moments saints aujourd'hui? Certains d'entre vous ont-ils des moments privilégiés pour rencontrer Dieu? Je dis donc le temps, puis nous avons regardé l'espace. Ainsi, le temps et l'espace sont vécus en présence de Dieu et ce temps et cet espace deviennent saints. Q. Violation de la sainteté, Nadab et Abichu 53, 09-54, 49. Or, que se passe-t-il lorsque les choses saintes sont violées? Vous souvenez-vous de ces deux gars, Nadab et Abichu? De qui étaient-ils les enfants? Oui, ce sont les deux fils d'Aaron. Ont-ils offert un feu non autorisé devant le Seigneur dans Lévitique chapitre 10? Que leur arrive-t-il? Ils sont consumés et détruits. Alors ces deux gars, les enfants d'Aaron, proposent un feu non autorisé. Ils sont frappés à mort en présence du Seigneur. Ils violent la sainteté de Dieu et la sainteté de Dieu les consume. Au fait, pensez-vous que cela a beaucoup affecté Aaron? Quand Aaron entre là-dedans, pensez-vous qu'Aaron a bondi là-dedans en disant, « Eh, je suis le grand prêtre, donc ses enfants ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Alors je suis là maintenant. » Pensez-vous qu'Aaron est entré comme ça? Ou Aaron dirait-il, « Wouah ! » Alors, voyez-vous le changement d'attitude qui se serait produit? C'était aussi les enfants d'Aaron. dans notre culture, avons-nous toujours une seconde chance? Les conséquences ne se font jamais vraiment sentir, car quelqu'un viendra nous renflouer. Les conséquences pèsent donc sur ces enfants sans seconde chance. Je pense que tu dois y réfléchir. Les conséquences se produisent. Dieu n'agit pas toujours avec grâce et compassion dans les longues souffrances, ce qui signifie qu'il n'y a aucune conséquence à quoi que ce soit. C'est assez fort ici avec Nadab et Abichu dans Lévitique chapitre 10. R. Violer la sainteté de Dieu, Usa 54, 50-56, 51. En voici un autre qui est également difficile. Celle-ci fut difficile pour David, le roi David. Que faisait David ici? Le nom de ce type est Usa. L'arche de Dieu était partie avec les Philistins. L'arche de Dieu allait d'un endroit à l'autre avec les Philistins. Les Philistins se faisaient tuer, alors ils dirent, « Nous devons rendre cette arche aux Juifs. » L'arche revient donc sur le territoire juif. David fait alors de Jérusalem sa capitale et il veut faire monter l'arche de Dieu jusqu'à sa capitale politique. Jérusalem serait alors la capitale religieuse autant que la capitale politique. Alors David s'empare de Jérusalem. Auparavant, elle appartenait aux Jébuséens. C'est David qui a capturé Jérusalem et c'est pourquoi on l'appelle la ville de David. Alors David essaie maintenant de faire monter l'arche à Jérusalem. Ils l'ont mis sur un chariot. Le chariot monte. C'est un peu comme la Nouvelle-Angleterre, il y a des rochers partout. Donc, ce qui se passe, c'est que la charrette heurte un rocher et que l'arche va s'envoler de cette charrette. Que fait Uzza? Uzza étend ses mains pour stabiliser l'arche. Il touche l'arche. Quel est le problème lorsque vous touchez l'arche? Boum, il est mort. Vous le savez tout grâce à Indiana Jones, vous ouvrez l'arche et que se passe-t-il? Le visage de tout le monde fond. Au fait, est-ce que ça a fait peur à David? Qu'a dit David? David fait monter l'arche à Jérusalem et tout à coup, Uzza est mort et il l'appelle, Pérez Uzza, l'éclatement sur Uzza. David dit, waouh, garde l'arche là. David n'a donc pas fait monter l'arche à ce moment-là, mais il le fera plus tard. La prochaine fois qu'ils le monteront, ils le feront monter sur les épaules des prêtres, le portant et offrant des sacrifices tous les 7 pas jusqu'à Jérusalem. Ensuite, David danse devant le Seigneur de toutes ses forces, nous y reviendrons plus tard. Mais cet amené de l'arche du Seigneur à Jérusalem, Uzza, viola la sainteté de Dieu et il mourut. Est-ce violation de la sainteté, le roi Osias 56, 52-57, 59? En voici un dont vous ne connaissez probablement pas. Il s'agit du roi Osias de 2 Chroniques 26. Osias pensait qu'il était un gros personnage. Donc Osias est le roi et il va montrer à tout le monde qu'il est le grand roi. Il dit, « Eh, je vais aller offrir de l'encens tout seul. Je n'ai pas besoin d'un prêtre. Je peux aller le faire moi-même. » Les prêtres disent, « Osias, ne fais pas ça. Osias, ne le fais pas. Reculez, Osias. » Osias dit, « Je suis le roi. J'y vais. » Il entre là-dedans et va faire le truc de l'encens et que arrive-t-il et il a sa main. Tout d'un coup est-ce Zohom. Le gars attrape la lèpre et il est couvert de lèpre. Au fait, quand on a la lèpre, est-on pur ou impur? Impur. Alors tout d'un coup, les prêtres l'ont précipité hors de là. À propos, Osias est alors atteint de la lèpre pour le reste de sa vie et vit comme un lépreux pour le reste de sa vie pour avoir violé, encore une fois, cet espace sacré. Voilà donc 3 exemples de personnes violant cette sainteté et vous pouvez voir le genre de réponse que vous obtenez là. T'es sanctifié les choses saintes 58-00-59, 37. Maintenant, comment les choses sont-elles rendues saintes? Les choses sont désignées ou ce qu'il appelle sanctifié. Sancti est le mot latin pour saint. Sancti est le mot latin utilisé dans sanctuaire. Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler de l'étude de la sanctification? Qu'est-ce que l'étude de la sanctification? L'étude d'être rendu saint. Au fait, y a-t-il quelqu'un dans le mouvement de la sainteté? À mon époque, ils avaient les roli-rollers. Donc, en gros, vous mettez quelque chose de côté dans un but particulier. vous le sanctifiez, vous le désignez, souvent avec de l'huile. Comment se passe la transmission? La transmission se fait généralement par le toucher. Vous oignez quelqu'un d'huile. Quelqu'un a-t-il déjà entendu l'expression « imposition des mains » Lorsque vous désignez un pasteur, un ancien dans votre église ou un missionnaire, l'un d'entre vous l'a-t-il fait avec un missionnaire? Ils arrivent et vous imposent les mains. C'est censé être par l'imposition des mains par le toucher que vous désignez cette personne comme étant une personne spéciale qui va être missionnaire dans un endroit spécial. Vous désignez cette personne comme étant spéciale, dévouée à cette cause. Donc, généralement, c'est par le toucher et généralement par l'huile. La sainteté est généralement le toucher et l'huile, loin. Vous oignez la personne, vous touchez l'autel et l'autel est saint. Jésus est la sainteté 59, 38-62, 59. Maintenant, voici une histoire vraiment sympa avec Jésus, dans Matthieu 9.20, et cela se produit également dans certains autres évangiles. Jésus marche au milieu d'une foule. Il y a tout le temps toutes ces foules autour de Jésus. Nourris-moi. Nourris-moi. Quoi qu'il en soit, toutes ces foules sont autour de Jésus. Question, quand vous avez une foule comme celle-là, est-ce que les gens poussent les gens? Tu sais, toucher les gens. Je veux dire, nous sommes allés à un match de basketball chez les Celtics là-bas et les gars sont arrivés en courant. Il y a un gars qui est sorti. Question, est-ce que tout le monde essayait de le toucher? Tout le monde essayait de le toucher. Cette main l'a touché. J'avais la sueur de Michael Jordan sur la main. Je ne laverai jamais ça. C'est la vérité honnête. Je l'ai fait. Mon fils m'a obligé à le faire, mais de toute façon, il est allé là-bas, alors nous avons fait Michael. Je l'ai. Michael Jordan, je ne me laverai plus jamais cette main. Lavez-vous cette main. Tout le monde pousse Jésus. Jésus s'arrête dans la foule et dit, « Eh, qui m'a touché ? Qui m'a touché ?» Les disciples disent, « Allez Jésus. Vous avez tous ces gens par ici. Qui m'a touché ? Vous savez, Jésus est, qui m'a touché. Il y a des centaines de personnes qui vous poussent et vous touchent. Mais Jésus dit, « Non, quelqu'un m'a touché. » Maintenant, question, vous pouvez voir les disciples, parfois ils ne comprenaient tout simplement pas le gars. Alors il se retourne. Quelqu'un l'a touché, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Quelque chose est arrivé. Il se retourne et il y a une femme derrière lui. Cette femme a une perte de sang. Maintenant, vous avez lu Lévitique. Il y a là une femme qui a une perte de sang. Question, est-elle pure ou impure? Elle est impure. Que arrive-t-il quand quelqu'un qui a la lèpre, quelqu'un qui est impur, touche quelqu'un qui est pur? Que arrive-t-il à la personne qui est clean? Vous avez la lèpre et vous touchez une personne pure. Quand l'impur touche le pur, que arrive-t-il au pur? Ce qui est pur devient impur. Que arrive-t-il à Jésus? La femme touche Jésus. Jésus devient-il impur? Non, cela se retourne contre vous. La femme devient pure. Elle est guérie. C'est cool. Est-ce que cela viole totalement le Lévitique? Est-ce que tout ce truc du Lévitique est là, est-elle impure? Elle est impure. Elle touche Jésus. Tout à coup. Elle est guérie. Beau. Absolument magnifique. Donc, vous obtenez ce truc vraiment cool qui se passe avec Lévitique et Jésus, qui m'a touché. Eh bien, oui, elle aurait pu être tuée. Est-ce possible si Jésus est saint? Je suppose que Jésus se fait bousculer par tout le monde dans la foule, donc ce n'était probablement pas si haut sur la liste des priorités et elle espérait que Jésus la guérirait et c'est en fait exactement ce qui s'est passé. Quand tu es comme ça, ça vaut probablement le risque. C'est donc une belle histoire avec Jésus et Lévitique et le contexte de cette histoire. V. Tableau récapitulatif du Lévitique, impur/pur/saint 63, 00-66, 44. Maintenant, en fait, avant de faire ça, ce prochain tableau, j'adore ce prochain tableau. C'est l'un de mes graphiques préférés parmi tout ce que nous faisons dans PowerPoint, celui-ci est mon préféré. Ce tableau contient tout le livre du Lévitique. Je n'oublierai jamais, j'enseignais tout ce cours sur le Lévitique et j'ai volé ce tableau à Gordon Wenham et son commentaire sur le Lévitique. Quand j'ai vu le tableau, c'était comme si tout le livre du Lévitique venait de me venir à l'esprit. Ce tableau contient tout le livre du Lévitique. Désolé d'avoir exagéré, mais cela explique tout le livre du Lévitique. C'est une exagération, une hyperbole. Vous avez trois états différents. Vous avez l'état d'être, sain. Vous avez l'état d'être, propre. Et vous êtes dans l'état d'être, impur. La femme avec une perte de sang, c'était quoi? Elle était impure. Vous avez, pur, et ensuite vous avez, sain. Maintenant, dans une grande partie du livre du Lévitique, est-ce que cela vous dit qui est impur? Si une femme a un enfant, elle est impure pendant 30 jours après avoir eu un enfant et elle a besoin d'être purifiée. Un homme fait certaines choses et touche des choses qu'il ne devrait pas parce qu'il est impur. Il doit se laver. Si vous êtes impur, comment pouvez-vous vous purifier? Si vous êtes impur, vous purifiez. Quelle substance utilisez-vous pour le nettoyage? Eau. Donc, pour que l'impur passe au propre, vous lavez. Les Juifs organisent de nombreuses cérémonies au cours desquelles ils se lavent les mains. Au fait, est-ce que c'est une bonne hygiène? Alors ils se lavent les mains. L'autre substance qui peut nettoyer, mais qui ne pénètre pas, est le sang. Alors, auriez-vous des sacrifices pour vous amener de cette façon? Le sang versé pour le sacrifice. Ainsi, l'eau et le sang purifient et vous devenez pur. Maintenant, comment passer du pur au saint? En passant du pur, vous sanctifiez. Quelle substance est habituellement utilisée pour sanctifier? Huile d'olive. Vous utilisez habituellement de l'huile d'olive, pour sanctifier, généralement pour oindre et toucher. C'est rendu sacré. Une grande partie du livre du Lévitique porte sur ce mouvement. Alors, que se passe-t-il lorsque quelque chose de sacré va dans l'autre sens? Quand quelque chose est saint, vous pouvez profaner à ce qui est saint. Vous pouvez profaner ou profaner à ce qui est saint et cela va dans cette direction. Quand vous avez quelque chose de propre, vous le polluez et cela devient impur. Donc vous descendez dans cette direction en venant dans l'autre sens. Une grande partie du livre du Lévitique vous parle-t-elle de ces trois états et du mouvement entre ces trois états? Oui. C'est comme le livre du Lévitique dans un seul tableau, l'élève pose une question, oui, c'est pourquoi vous avez dû écouter très attentivement ce que j'ai dit. Quand vous frappez le sacré ici et que vous le profanez, cela va dans cette direction. En fait, cela ne passe pas directement au nettoyage, cela s'éloigne en fait du graphique lorsque vous profanez des choses. La même chose ici, lorsque vous polluez quelque chose qui est propre, cela descend en quelque sorte, directement hors du graphique. Il faut donc être prudent. Sur le prochain, il travaille très spécifiquement sur le suivant. Mais en redescendant, vous avez tout à fait raison. C'est comme si vous étiez sur une pente glissante ici. C'est mauvais de profaner des choses. Bonne observation. W. Loi sur la pureté 66, 45-68, 56. Maintenant, pour ce qui est des lois de pureté, pourquoi un cochon est-il impur? Pourquoi un poisson-chat est-il impur? Quand j'étais petite, nous mangions du poisson-chat. Est-ce que l'un d'entre vous mange du jambon ou du bacon? Alors pourquoi un poisson-chat est-il impur? Pourquoi une femme c'est un peu plus délicat? Pourquoi une femme est-elle impure après l'accouchement? L'accouchement n'est-il pas un processus naturel? L'accouchement n'est-il pas approuvé par Dieu? Pourquoi une femme après l'accouchement est-elle considérée comme impure? En voici une autre, un couple marié après avoir eu des relations est considéré comme impur. Dieu a-t-il ordonné cela dès le début? Oui, un homme et une femme doivent devenir une seule chair. Mais ici, un couple marié après avoir eu des relations est impur. Alors, que pensez-vous de cette chose d'impureté? Comment doit-on le comprendre? Voyez-vous les différences dans ces choses? Je veux donc explorer les différentes logiques de cela et ces lois de pureté. D'ailleurs, est-ce vraiment étranger à notre culture? Donc ce que nous faisons, c'est que nous passerons à une autre culture et que nous remontons 3000 ans en arrière. Donc, dans un certain sens, vous devez sortir de la manière américaine dont nous envisageons les choses. Ils pensaient les choses très différemment à l'époque. En voici une autre, pourquoi un prêtre avec une main déformée n'était-il pas autorisé à servir? J'ai un bon ami Floyd Vautaf et c'est un de mes amis bibliothécaires. Il a une main déformée. Serait-il autorisé à exercer la fonction de prêtre? Il ne pouvait pas exercer la fonction de prêtre. Si vous dites, eh bien, c'est de la discrimination envers les handicapés. Vous avez totalement raté l'essentiel du livre du Lévitique. Alors, comment donner un sens à toutes ces choses? Voilà donc le chapitre 21, versets 5 et 17 et ailleurs. Laissez-moi essayer d'aborder cela maintenant. X explication alléguée des lois de pureté, totalement arbitraire 68-57-69-37. Certains disent que ces lois de pureté sont totalement arbitraires, que Dieu a dit, faites cela parce que je l'ai dit. Au fait, vos parents vous ont-ils déjà dit de faire quelque chose simplement parce que, je l'ai dit? Dieu est-il totalement arbitraire? Cela ne fonctionne donc généralement pas très bien. Le fait que Dieu soit totalement arbitraire ne correspond pas à son caractère ou à son comportement normal. Il fait généralement des choses dans un but précis. Donc celui-ci, je trouve le plus faible des arguments. Pour être honnête avec vous, je rejetterai cela. Cela ne correspond tout simplement pas au caractère de Dieu. Il ne demande pas aux gens de faire les choses de manière totalement arbitraire. Cela semble toujours lié à son caractère, à son destin, à ses buts ou à ses objectifs. Y point de vue culturel / cultique 69-36-70-49. Voici une explication, sectaire ou culturelle. Ce que Dieu dit, c'est, et, les gars, je veux que vous soyez différents des Cananéens. Les Cananéens, lorsqu'ils construisent un autel, avec quoi construisent-ils leurs autels? Pierre taillée. Les pierres s'assemblent et ils construisent leurs autels en pierre de taille. Dieu dit, je ne veux pas que tu construises ton autel comme ça. Je veux que tu construises ton autel avec des pierres brutes. À propos, quand nous remontons 3000 ans en arrière, pouvons-nous distinguer un autel juif d'un autel cananéen? Nous pouvons le savoir immédiatement. Les autels cananéens sont fabriqués en pierre de taille dans un endroit appelé Arad. Par exemple, vous voyez un autel cananéen fait de pierre taillée et les autels juifs sont faits de pierre non taillée, au moins certains d'entre eux. Les juifs en fabriquaient en fait avec de la pierre taillée, par exemple Birchiv. Ils n'étaient pas censés le faire, mais ils l'ont fait. En d'autres termes, la culture cananéenne procède ainsi. Dieu dit. Je ne veux pas que tu fasses ça de cette façon. Je veux que vous le fassiez différemment pour qu'il y ait une différence entre votre culture et la culture cananéenne. Certaines lois semblent s'expliquer par cette différence de culture. Donc cela explique certaines choses. La différence de culture entre la culture cananéenne et la culture israélienne semble expliquer certaines choses en tant que marqueur ethnique. Z vue hygiénique 70-50-73-34. En voici maintenant un autre, l'hygiène. Il y avait un gars dans les années 1950 nommé M.C. Milan, qui a écrit un livre intitulé « Aucune de ses maladies ». Il était médecin. Il a parcouru le livre du Lévitique et a demandé, est-ce sain? Au fait, les Juifs savaient-ils quelque chose sur les germes? Les Juifs n'avaient aucune idée des germes, absolument aucune idée. Même les gens du début de l'Amérique. Vous souvenez-vous, est-ce que quelqu'un est déjà allé à Williamsburg et combien de personnes sont mortes simplement à cause de problèmes de santé fondamentaux? Ils ne connaissaient pas les germes et ces gens en sont morts. La façon dont les Juifs se lavent toujours les mains est-elle donc hygiénique? Est-ce très sain? Vous ne mangez pas de porc. À cette époque, le porc souffrait-il de trichinose? Au fait, quand vous mangez du porc, est-ce que le porc a encore la trichinose en Amérique? Tout a été éliminé. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais à l'époque où j'étais jeune, on ne laissait pas le porc reposer très longtemps. Mangeriez-vous du porc sans le cuire? Aujourd'hui, la trichinose n'est pas un problème. En fait, est-ce que quelqu'un a déjà vu ce type qui a épousé ma fille, il mange du hamburger cru. Quelqu'un a-t-il déjà vu quelqu'un manger un hamburger sans le cuisiner? Il mange du jambon, du hamburger cru. Oui, je ne plaisante pas. Le gars mange du hamburger cru. Je ne sais pas. Je pensais que c'était vraiment bizarre. Cuisinez votre hamburger, s'il vous plaît. Mais il y avait à l'époque la trichinose chez le porc. À propos, une femme est impure après l'accouchement. Une femme doit-elle bénéficier d'une pause après l'accouchement? C'est ainsi qu'ils ont procédé. Pendant 33 jours, une femme est impure après l'accouchement et c'est, au fait, est-ce une chose saine pour elle? Oui, c'est le cas. Tant de règles, permettez-moi de refaire celle-ci de plus. Pensez Y en termes de bactéries. Lorsque vous deviez faire votre numéro, aviez-vous le droit d'aller aux toilettes à l'intérieur du camp juif? Non. La Bible dit que lorsque vous êtes à l'intérieur du camp d'Israël, vous avez un problème, vous devez y aller, en gros vous devez sortir du camp et vous devez apporter une pagaie avec vous pour faire quoi? Vous devez l'enterrer à l'extérieur du camp. L'enterrer hors du camp, est-ce sain? Parce que si vous le faisiez à l'intérieur du camp, y aurait-il toutes sortes de mouches et de maladies? Et Dieu dit, eh, non, 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 quand tu fais ton numéro, fais-le en dehors du camp. Enterrez-le hors du camp. Est-ce sain? Je veux dire, nous le faisons encore aujourd'hui. Nous appelons cela des fosses septiques et des choses comme ça encore aujourd'hui. Donc M.C. Emile en passe en revue et dit que bon nombre de ces règles sont tout simplement des règles tout à fait saines. Est-ce que cela les explique tout? Non, ce n'est pas le cas. Ah. Vu Yukines / intégrité 73, 35 à 79, 32. Je vais en proposer un autre maintenant. Ceci est en fait basé sur une sociologue nommée Marie Douglas. Je l'ai en quelque sorte adopté comme mien. Mais celui-ci que je vais vous montrer explique certains des plus difficiles. Ce que je n'arrive pas à comprendre et dont je n'ai aucune idée. C'est ce que je veux appeler la « vue dégueulasse ». Chaque culture a-t-elle ce qui est dégueu au sein de la culture? Retourner à un rituel avec ma femme. J'aime les hamburgers. Je les aime avec du ketchup. J'adore le ketchup. Et donc j'ai mis du ketchup des deux côtés du burger. Je m'y croque, puis je reçois ce truc de ketchup ici, puis je vais voir ma femme et je lui dis, est-ce que tu m'aimes? Je veux un bisou. Je veux embrasser ma magnifique épouse. Et j'ai du ketchup qui coule et je sais que j'ai du ketchup qui coule et je veux voir, est-ce que tu m'aimes? Combien tu m'aimes? Veux-tu m'embrasser? Bien sûr, elle ne le fera pas. Éloigne-toi de moi. Va t'essuyer la bouche. Question, quand je m'approche d'elle et que j'ai du ketchup qui coule dans ma bouche, question, c'est dégueulasse. Permettez-moi d'utiliser un exemple différent. C'était un mauvais exemple. Permettez-moi d'utiliser un exemple différent. Je suis dans un endroit appelé Grasse College. Il y a une fille d'une autre partie du monde. Dans cette partie du monde, ce n'est pas une blague, il mange des araignées. Alors elle est dans le dortoir et il y a une araignée et elle l'a fait éclater. Question, ouais, d'accord. Mauvais. Est-ce que tout le monde voit ça? C'est, dégueulasse, d'accord. Au fait, est-ce qu'elle a trouvé ça dégueulasse? Non, d'ailleurs, les insectes sont une bonne source de protéines. Elle le fait éclater, c'est plutôt dégoûtant pour nous. Je pense qu'elle le faisait en partie pour l'effet. Mais elle l'a fait sauter. Donc ce que je dis, c'est du dégoût, des choses différentes selon les cultures. Laissez-moi faire ceci, Dave Slasher est un de mes amis. Dave avait une tumeur au cerveau et la tumeur au cerveau était juste derrière son œil. Il est allé à la Cleveland Clinic et ils sont allés dans sa tête et ont retiré la tumeur. C'était à peu près la taille d'une balle de golf. Pendant qu'il était dans sa tête, ils ont sectionné un nerf qui parcourt votre paupière de haut en bas grâce à cet influx nerveux. Ils lui ont coupé le nerf d'une paupière. Ce qui se passe, c'est que sa paupière est descendue et qu'elle est restée baissée de façon permanente. Il peut donc voir d'un œil mais sa paupière était baissée de l'autre côté. Maintenant, que arrive-t-il à votre œil lorsque votre paupière descend après un certain temps? Votre œil va-t-il s'atrophier? Et ainsi il est devenu aveugle d'un œil. Alors maintenant, il s'approche des gens. Lorsque les gens s'approchent de Dave, il est une personne très grégaire et un merveilleux causeur, un grand gars charmant. Il s'approche des gens. Observera-t-il les yeux des gens pour voir quand ils font quoi? Oui. Il s'approche d'eux, il leur parle et il surveille leurs yeux tout le temps. Vont-ils regarder autour de lui juste en lui parlant? Et tout d'un coup, verra-t-il leurs yeux fixés sur cette paupière baissée? Oui. Au fait, s'il parle avec des enfants, est-ce que les enfants seront vraiment dramatiques? Vos parents vous ont-ils déjà dit de ne pas regarder? Alors vous vous approchez de Dave et il a ce mauvais œil et tout d'un coup vous dites, putain de vache, regarde ça. Maintenant, vous venez adorer Dieu. Dieu veut-il que vous regardiez ses yeux ou Dieu veut-il que vous pensiez à lui pendant l'adoration? Vous tombez sur un prêtre qui a une main déformée. Vous amenez votre mouton ou votre chèvre pour offrir un sacrifice et vous avez ce prêtre avec une main déformée. Qu'est-ce que tu vas regarder? Ce prêtre armé abat vos moutons. Je suis désolé, mais comment ce type fait-il ce truc? Il a un bras pour abattre le mouton. Est-ce que tout le monde va réfléchir à la manière dont ce type va s'y prendre? Je ne suis pas si bizarre, vous pensez la même chose. Vous êtes tout simplement trop poli pour le dire. Mais ce que je dis, c'est que voyez-vous comment cela pourrait détourner l'attention de l'adoration? Tout le monde se demanderait, comment ce type va-t-il lutter contre ce mouton là-haut? C'est pourquoi Dieu dit, permettez-moi d'utiliser un mot différent, je ne veux pas de ce qui n'est pas normal. En d'autres termes, je veux que les choses soient normales pour que quand tu viens il n'y ait rien de dégueulasse. Lorsque vous venez en ma présence, tout devrait être normal pour que vous puissiez vous concentrer sur moi et ne pas vous laisser distraire par d'autres choses. Ainsi, par exemple, lorsque vous faites votre numéro, vous ne le faites pas dans le camp. Maintenant, tout d'un coup, quelqu'un entre dans le camp pour aller prier et tout d'un coup, hugde. Ils y entrent. Et ils commencent à essayer de l'essuyer et ils vont au culte et ils ont ce truc sur leurs pieds et ça sent. Dieu dit, sortez-le du camp. Lorsque vous venez en ma présence, je veux que vous vous concentriez sur moi. C'est donc ce qui est normal. Au fait, qu'est-ce qui est normal, est-ce que cela sera différent selon les cultures? Et donc, ce qui est entier est permis car Dieu connaît leur culture et il dit, ce qui est entier. Quand tu viendras devant moi, je veux que tout soit normal. Je ne veux pas que quelque chose crée une dissonance lorsque vous venez m'adorer. Donc, cette vision dégueulasse, je pense que chaque culture a ses choses dégueulasses et la parole de Dieu, ne faites pas ça lorsque vous venez adorer. J'aime donc celui-ci parce qu'il explique certains des plus difficiles et dit certaines choses dont nous ne connaissons tout simplement pas la culture. Il semble qu'il existe une différenciation culturelle, de sorte que l'accent peut être mis sur Dieu dans un acte d'adoration plutôt que sur les détails qui l'entourent. Un bérègle pour manger cachère 79, 33-86, 52. Maintenant, comment peut-on manger cachère? Laissez-moi juste vous dire lors du dernier cours, Nat, qui est en fait juif, et je ne sais pas si quelqu'un ici est juif. Quand tu vas à l'épicerie, que fais-tu? Vous prenez la canette et vous cherchez, elle contient un cercle avec un K. C'est cachère. Je plaisante, mais pas vraiment. Connaissez-vous le cas sur la canette? Oui. Donc s'il y a cas sur la canette, c'est cachère. Comment manger de vrais animaux terrestres cachères? Il existe deux règles pour les animaux terrestres. Ils doivent faire quoi? Fendre le sabot et ruminer. Alors, le bœuf est-il bon? Le bœuf, c'est bon, mouton, bien, les chèvres sont bonnes. Les cochons ne valent rien, pourquoi? Il se fend dans le sabot mais ne rumine pas. Le porc n'est donc pas cachère. Au fait, le porc avait-il aussi des problèmes de trichinose à cette époque? Donc, le porc est sorti. Vous allez chez une personne juive. Vous dites, et, sortons chercher un jambon et du fromage. Bon, entre nous deux, ai-je vu des juifs manger du porc? Oui. en tant que gentil, devriez-vous leur offrir du porc? Est-ce une insulte? Il était une fois, rappelez-vous, je vous l'ai dit samedi soir, tout le monde faisait la fête à Jérusalem. Il était une fois, j'étais à la pizzeria Ricci pour acheter une pizza. Alors on sort, on va chercher une pizza. Il y a tous ces gens qui poussent et crient leur commande de pizza. Et tout d'un coup, quelqu'un crie, c'est la vérité, pizza au pepperoni. Et tout d'un coup, avec tous ces gens qui crient, tout l'endroit devient comme un silence de mort. Maintenant, quel est le problème? Vous avez vu mes cheveux, j'avais des cheveux à l'époque. Est-il clair que je ne suis pas juif? Tout le monde regarde autour de lui. Cherche-t-il un gentil? J'étais un gentil. C'est à ce moment-là que tu sors de là. Alors tout d'un coup, vous commencez à reculer, vous réalisez ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas si stupide. Je ne l'ai pas fait, mais ils regardent autour de moi et je suis un gentil. Et donc nous avons simplement fait marche arrière et sommes partis aussi vite que possible parce que ce n'est pas cool. Pizza au pepperoni, ne fais pas ça. Ne faites pas de jambon, car le jambon n'est pas cachère. Maintenant, ce sont des animaux terrestres. Et les créatures marines. Deux règles pour les créatures marines. Les créatures marines doivent avoir en fait, faites-le de cette façon. Qu'est-ce qui est normal pour un poisson? Il a des écailles et des nageoires. Est-ce un poisson normal? Il a des écailles et des nageoires. Alors, voyez-vous comment cette histoire de normalité s'intègre ici? Maintenant, ça veut dire quoi? Les basses sont bonnes, la truite est bonne, le grand brochet est bon et le doré jaune est bon. Quels autres poissons de gibier mangeons-nous? Le saumon est bon. Flétan bon. Parlez-moi du poisson chat. Quel est le problème avec le poisson chat? Écailles et nageoires. Avez-vous déjà ramassé un poisson chat? Le poisson chat a quoi dessus? De la peau, pas des écailles. C'est comme si une anguille avait de la peau. Donc ils ne font pas de poisson chat. Ils ne font pas de homard non plus. En fait, quand j'ai grandi, mon père attrapait aussi du poisson chat. J'aime le poisson chat mais si vous êtes juif, ce n'est pas cachère. C'est une autre chose que les gens ont suggéré, parce qu'ils se nourrissent de fond et des choses comme ça où il y a aussi plus de risques de maladie. Je regarde en arrière et je dis que c'est peut-être le cas, mais j'aime cette idée de normalité, selon laquelle un poisson avec des nageoires et des écailles est normal. Je pense que je préférerais cela au poisson de fond parce que vous savez, un autre poisson que nous n'avons jamais mangé était la carpe. Les carpes sont des ventouses au fond mais elles ont des nageoires et des écailles. Je préfère manger un poisson chat plutôt qu'une carpe tous les jours. Oui, continuons avec ça. Nous avons des créatures volantes. Quel genre de créatures volantes? Pas d'oiseaux de proie. Que sont les oiseaux de proie? Les oiseaux de proie sont des oiseaux qui mangent du sang. Avez-vous l'impression que manger du sang n'est pas bon? Le peuple juif n'a pas le droit de manger du sang. Les oiseaux de proie mangent du sang. Pourriez-vous manger un faucon? Pas de faucon. Les vautours, bons ou mauvais? Mauvais. Les hiboux, bons ou mauvais? Mauvais. N'importe lequel de ces types d'oiseaux de proie, comme les vautours, les faucons, les hiboux et ce genre de choses. Et les faisans? Faisans, bien. J'ai maintenant une famille de dindes qui viennent tous les jours dans mon jardin. Les dindes sont-elles bonnes? Les dindes sont bonnes. Quelle autre espèce d'oiseau? Ah, l'écaille. Les juifs mangeaient-ils des cailles? Le savons-nous? Souvenez-vous des cailles du désert. Maintenant, le quatrième ici concerne les insectes. Ils leur permettent en fait de manger des insectes, des larves, oui, des pliants, non. Pouvez-vous me dire quelqu'un qui a mangé des sauterelles? Est-ce que quelqu'un connaît, dans la Bible, quelqu'un qui a mangé des sauterelles? Oui, Jean-Baptiste. Quand j'étais dans le Sinaï, Ora, qui était notre guide touristique, nous étions dans le Sinaï pendant 3 semaines, elle nous a fait marcher partout. Elle a dit, vous ne roulez pas, vous marchez. Elle nous a fait marcher et à un endroit, elle a dit, je vais vous faire monter ici. Nous avons dû franchir la crête. Et elle a dit, quand vous monterez là-haut, a-t-elle dit, faites attention à ces sauterelles noires. Ils ont des sauterelles noires. Dans le désert, y a-t-il beaucoup de choses toxiques? Ils n'ont qu'une seule chance de frapper et beaucoup sont venimeux. Elle a dit que ces sauterelles noires crachent et c'est comme une piqûre d'abeille quand elles crachent. Elle a dit que si cela vous frappe à l'œil, cela vous arrachera l'œil. Nous sommes donc là-bas, marchant sur ce chemin et devinez quoi? Tout d'un coup, juste devant nous, une sauterelle noire se pose comme ça. Alors je vois cette sauterelle noire. J'ai dit, et, je suis venu d'Amérique. Je dois voir une sauterelle noire. Je vais prendre une photo de cette chose. Alors, j'essaie d'y arriver. J'ai des lunettes. J'ai un appareil photo. J'en arrive donc à cette sauterelle noire. Pendant ce temps, ma femme crie, sauterelle noire. Courir. Courir. Sauterelle noire. J'essaie d'avoir cette photo. Le problème était que lorsque vous le faites sans téléobjectif, quel est le problème? La sauterelle noire sur ma photo n'est qu'un petit morceau de noir et j'ai complètement gâché la photo. Quoi qu'il en soit, ce fut un désastre. Alors éloignez-vous de ces sauterelles noires. Oh, au fait, les sauterelles, j'ai toujours dit, mettez les sauterelles dans la pâte, appelez-les ailes de poulet, personne ne fera la différence. Les insectes sont-ils riches en protéines? Oui. Et donc pour les insectes, les larves, oui, des pliants, non. Les larves seraient des sauterelles. Des sauterelles, des criquets, ce genre de choses. Alors que les dépliants seraient des choses comme des abeilles et des moustiques. CA. 3 problèmes dans Lévitique 86, 53-90, 29. Maintenant, 3 problèmes se posent et nous allons juste, après avoir terminé cette diapositive, mettre fin à cette journée. J'avais un ami Kevin Carr qui étudiait dans une université laïque. Le professeur de l'université laïque a déclaré, la Bible est pleine d'erreurs scientifiques. Alors Kevin, en bon sage qu'il était, lève la main et dit, j'ai lu la Bible plusieurs fois et je n'ai jamais vu d'erreurs scientifiques. Le professeur dit, oh, vraiment? Vous avez lu toute la Bible, n'est-ce pas? Qu'en est-il de Lévitique 11.6? Et vous voyez juste Kevin grimer ce, Lévitique. C'est un chrétien. Connaît-il très bien le Lévitique? Ainsi le professeur dit, dans Lévitique 11.6, il est dit que le lapin rumine. Le lapin ne rumine pas. Au fait, est-ce vrai? Pour mâcher du cad, il faut combien d'estomac? Avez-vous besoin de plusieurs estomacs pour ruminer? Un lapin ne rumine pas. Est-ce exact? C'est correct. Cependant, la Bible parle-t-elle toujours en termes scientifiques? Un lapin a-t-il l'air de mâcher des choses? Maintenant, c'est possible, est-ce le langage de l'apparence? En d'autres termes, le langage de l'apparence n'est pas nécessairement une description scientifique selon laquelle cela pourrait sortir de leur estomac. Le lapin mâche sa nourriture encore et encore. Est-il également possible que ce terme, lapin, soit une mauvaise traduction et qu'il s'agisse en réalité d'un blaireau? En d'autres termes, lorsque vous passez d'un pays à l'autre et qu'il y a 3000 ans de différence, est-il possible que vous ayez une mauvaise traduction entre les animaux? Il pourrait donc s'agir d'un problème de traduction. Il se pourrait que ce soit simplement le langage de l'apparence. Le deuxième concerne les chauves-souris. Les chauves-souris sont considérées comme des oiseaux au chapitre 11, verset 19. Les chauves-souris sont regroupées avec les oiseaux et vous ne plaisantez pas avec les chauves-souris. Je vous ai parlé de ce type nommé Probo qui était en prison. Probo était un non-croyant en prison. Probo lève la main lorsqu'il arrive en classe et dit, « Professeur, j'ai trouvé une erreur dans la Bible. » Et il est dit que les chauves-souris sont des oiseaux et tout le monde sait que les chauves-souris ne sont pas des oiseaux. Je te le demande, une tomate, c'est quoi? C'est un fruit. Question, que se passe-t-il si vous êtes dans une autre culture et qu'on appelle une tomate un légume? Est-ce une grosse affaire? Le monde entier doit-il utiliser le système de classification américain? Une chauve-souris voltait-elle comme un oiseau? Vous dites, eh bien, une chauve-souris est un mammifère. Devait-il suivre exactement notre système de classification? Non, il classe les choses différemment de nous. Il s'agit donc simplement d'une différence de classification. Ne manquez pas tout l'intérêt ici. La troisième chose qui pose problème dans le livre du Lévitique et qui pose problème à beaucoup de gens est cette interdiction du comportement homosexuel. Lévitique 18.22 et 20.13 sont deux passages qui ressortent et disent « L'homme ne devrait pas coucher avec un autre homme ». Voilà donc trois problèmes dans le livre du Lévitique. Maintenant, ce que nous ferons la prochaine fois, c'est parler du système sacrificiel. Nous terminerons Lévitique la prochaine fois. Alors, faites attention. Passez un bon moment avec un long week-end ici. Il s'agit du Dr Ted Hildebrandt dans son cours d'histoire et de littérature de l'Ancien Testament, conférence numéro 13 sur le livre du Lévitique, sainteté, loi de pureté et problème. Transcrit par Megan Sideropoulos. Brut édité par Ted Hildebrandt II.